Voici une question dont beaucoup de gens aimeraient tant connaître la réponse. Qui est responsable de la crucifixion de Jésus? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui mettra fin à tous les débats, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'aimerais encourager tous nos auditeurs à bien écouter les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui et surtout à être attentifs aux réponses qu'elles vont nous donner. Cet enseignement pourra transformer des vies aujourd'hui même, j'en suis certaine. Voici premièrement les questions. Est-ce que le jour du Seigneur prophétisé dans le livre de Joël est arrivé à la Pentecôte? Qui est responsable de la mort de Jésus à la croix? Quel était le thème du message que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte? Est-ce qu'un croyant est immédiatement dans la présence de Dieu après sa mort? Quel est le signe de la repentance des croyants? Comment les croyants reçoivent-ils le don du Saint-Esprit? Quelles sont les caractéristiques d'une véritable Église? Qu'est-ce qui reflète la santé spirituelle d'une Église? Est-ce que le baptême est nécessaire au salut? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a la Bible en main et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient te prier, on vient devant toi, sachant que tu nous écoutes et que tu désires nous exaucer. Surtout que ce qu'on veut, mon Dieu, c'est de connaître ta volonté à notre égard. Ce qu'on veut, c'est que tu nous enseignes ce qu'on a besoin de savoir pour mieux te servir, pour mieux te connaître. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Celui-ci a formé l'Église et il a rempli les apôtres afin qu'ils puissent avoir la puissance nécessaire pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Tout comme la fête de la Pentecôte était célébrée 50 jours après la fête des Prémices qui préfigurait la résurrection, donc le Saint-Esprit est venu 50 jours après la résurrection du Seigneur Jésus pour former l'Église. À son arrivée, le Saint-Esprit s'est manifesté par un bruit comme celui d'un vent impétueux et par des langues ayant l'apparence de feu. Ceci a attiré une grande foule vers le lieu où étaient réunis les apôtres, probablement à un endroit à proximité du temple. La foule était perplexe devant le phénomène, alors que les apôtres parlèrent dans diverses langues. Des moqueurs accusèrent les apôtres d'être ivres. Maintenant, l'apôtre Pierre va prêcher le premier sermon de l'âge de l'Église, et il va aussi répondre aux moqueurs. C'est ce sermon que nous allons examiner à l'émission d'aujourd'hui. Lisons les deux premiers versets du discours. Actes chapitre 2, versets 14 et 15. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » À qui est-ce que l'apôtre Pierre s'adressait? L'assemblée qui l'écoutait était en très grande majorité juive. À cette époque, Jérusalem était une ville juive. Pilate et ses fonctionnaires étaient installés à Césarée, pas à Jérusalem. Pilate descendait à Jérusalem qu'au temps de la Pâque afin d'y maintenir l'ordre. Donc, au début, l'Église fut composée entièrement de juifs. L'Église est née à Jérusalem, s'est étendue dans la Judée et ensuite dans la Samarie pour finalement se répandre chez les autres nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans l'Ancien Testament, les hommes pieux de toutes les nations devaient adorer Dieu à Jérusalem. Maintenant, la bonne nouvelle, l'Évangile, doit être proclamée dans le monde entier. Pierre dit aux moqueurs que les apôtres et les disciples ne sont pas ivres, car il est trop tôt dans la journée pour cela. Ensuite, Pierre cite les Écritures pour expliquer le phénomène. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il se sert de cette prophétie afin de répondre aux moqueurs et aux incroyants. C'est pour cette raison qu'il la cite. Pierre ne dit pas que c'est l'accomplissement de la prophétie, mais que c'est un phénomène semblable. Il dit, « Pourquoi pensez-vous que ce que vous voyez est un phénomène étrange? Nous avons des prophéties qui annoncent de tels événements. » Pierre en a cité un passage suffisamment long pour que nous nous rendions compte qu'il ne dit pas que la prophétie est en train de s'accomplir. Que dit cette prophétie? Versets 17 à 21. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Personne ne peut prétendre que le jour de la Pentecôte, le soleil s'est changé en ténèbres et la lune en sang. Lorsque le Seigneur Jésus fut crucifié, il y eut des ténèbres pendant 3 heures, mais pas le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas eu de prodige en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y eut pas de sang, de feu, ni de vapeur, de fumée. Pierre cite cette prophétie afin que les moqueurs se rendent compte que l'effusion de l'esprit ne devait pas être un phénomène étrange à leurs yeux, puisque Joël en avait prophétisé un semblable qui se produira un jour. Mes amis, la prophétie de Joël n'est pas accomplie. Si nous lisons le livre de Joël, nous verrons qu'il traite beaucoup du jour de l'Éternel qui vient. Ce jour débute par la grande tribulation et se poursuit pendant le millénium. Le jour de l'Éternel est mentionné 5 fois dans le livre de Joël. Le prophète explique que c'est un temps de guerre et un temps de jugement pour la terre. La prophétie n'est pas encore accomplie et elle ne le fut pas le jour de la Pentecôte. Nous devons comprendre que Pierre cite la prophétie pour expliquer que le phénomène qu'il voit est quelque chose de semblable. Après cette introduction, il va prêcher au sujet d'un autre texte. N'oubliez pas qu'il parle à un auditoire qui connaît l'Ancien Testament. Rappelons-nous qu'il n'y a pas 2000 ans d'histoire de l'Église dans ce texte. Nous assistons à la naissance de l'Église dans Actes chapitre 2. Maintenant, Pierre va passer au vif du sujet. Verset 22. Hommes, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Je pense que les miracles, les prodiges et les signes étaient des phénomènes différents. Les miracles étaient accomplis pour un but, les prodiges pour un autre et les signes pour un troisième but. Certaines guérisons miraculeuses servaient à attirer l'attention des gens. Le Seigneur utilisait ces 3 phénomènes. Versets 23 et 24. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Pierre affirme que la crucifixion était conforme au plan de Dieu. Celui-ci ne fut pas surpris par les événements. Cependant, cela ne libère pas les acteurs de leurs responsabilités. Qui est responsable de la crucifixion du Seigneur Jésus? Les événements furent mis en branle par les chefs religieux. Donc, ils ont une part du blâme. Ensuite, ils ont excité la foule afin qu'elle exige la condamnation de Jésus. La foule aussi a une part de responsabilité. Ils ont manipulé le gouvernement romain afin qu'il accepte de faire exécuter Jésus. N'oubliez pas, mes amis, qu'il fut crucifié sur une croix romaine. Rome a sa part de responsabilité. Cependant, il est inutile d'argumenter pour déterminer qui était responsable de la crucifixion il y a 2000 ans. Nous sommes tous responsables de la mort de Jésus. Il est mort pour mes péchés et pour vos péchés. Écoutez la parole qu'a prononcée Jésus. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Ici, Pierre parle cependant aux personnes qui ont été impliquées directement dans le complot pour tuer Jésus, et il dit, « Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » La résurrection, chers amis, est une doctrine importante. Ce n'est pas la partie la plus importante du message de Pierre. Il ajoute, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. » Pierre enseigne que le Seigneur Jésus est ressuscité. C'est le thème du premier sermon prêché au moment de la naissance de l'Église. Voilà ce qui en fait toute sa force. C'est le jour de la Pentecôte. Et quel est le thème de la prédication? Ce n'est pas la prophétie de Joël, mes amis. C'est la résurrection du Seigneur Jésus. Maintenant, l'apôtre Pierre va citer le texte au sujet duquel il va prêcher. Il cite le psaume 16, versets 8 à 10. Lisons ensemble ce texte qui se retrouve dans Actes chapitre 2, versets 25 à 28. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Dans le psaume 16, David annonce la résurrection du Seigneur Jésus. Cet événement est maintenant accompli. Simon Pierre, rempli du Saint-Esprit, nous donne l'interprétation du psaume. Verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Il se peut que Pierre se soit tenu à proximité du temple et qu'il ait pu pointer du doigt le sépulcre de David. Il est possible de l'apercevoir du temple. Pierre dit, « Il est évident que le roi David ne parla pas de lui-même parce que ses os sont sur cette colline là-bas. Son tombeau est là. Son corps a vu la corruption. » David ne parle pas de lui-même, mais de quelqu'un que vous et moi connaissons. Quelqu'un qui n'a pas vu la corruption, mais qui est ressuscité des morts. Poursuivons notre lecture, versets 30 et 31. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, David parlait de la résurrection du Seigneur Jésus dans le psaume 16. et affirmer qu'ils ne parlent pas de la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, ici, au chapitre 2 du livre des Actes, le Saint-Esprit interprète le psaume. Maintenant, nous pouvons le relire, sachant qu'il parle du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité. Le sermon de Pierre porte sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce thème revenait souvent dans les sermons au début de l'histoire de l'Église. Voilà ce qui en faisait sa puissance. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Le miracle des langues atteste que Dieu a ressuscité Jésus. Tous en sont témoins. Versets 33 à 35. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Les saints de l'Ancien Testament n'allaient pas au ciel. Si un seul y avait été, David y serait aussi. David n'est jamais monté au ciel. Les saints de l'Ancien Testament ressusciteront pour vivre sur la terre un jour. C'est l'Église qui habitera la nouvelle Jérusalem céleste. Lorsque les croyants de l'ère de l'Église meurent, ils sont absents de leur corps, mais présents avec Dieu. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Maintenant, Pierre cite le psaume 110, verset 1er. Il démontre que Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Il y sera jusqu'à ce qu'il revienne pour établir son royaume. Tant qu'il sera à la droite de Dieu, il accomplira son œuvre dans le monde entier. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre prêche la résurrection du Seigneur Jésus. Celui-ci est mort pour leurs péchés, mais il est ensuite ressuscité. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Le message de Simon-Pierre a convaincu de péché des milliers d'auditeurs. Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceci est un message adressé à des gens qui avaient la parole de Dieu et qui connaissaient les prophéties. Ils marchaient dans la mauvaise direction car ils s'éloignaient de Dieu, et ce malgré le fait que Dieu ait institué leur religion. Pierre leur prêche la repentance. Ils doivent revenir à Dieu. Le baptême d'eau est un signe de la repentance des croyants. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. » Le baptême d'eau serait un signe de leur repentance et qu'ils auraient mis leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut. Le baptême sera un témoignage qu'ils ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Ils n'auront plus à offrir des sacrifices au temple. Leur baptême sera une déclaration publique que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ et met entièrement sa confiance en lui obtient le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est de nous que Pierre parle lorsqu'il parle de ceux qui sont au loin. C'est pour nous cette bonne nouvelle. verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Autrement dit, « Sortez de votre religion et venez au Seigneur Jésus. » Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ce compte est assez précis. Ce n'est pas une estimation grossière. Ces croyants étaient vraiment nés de nouveau. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les caractéristiques d'une véritable Église. Nous voyons les quatre caractéristiques d'une véritable Église. Premièrement, les croyants persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas la richesse, l'architecture ou la décoration du bâtiment d'église qui compte. Mais plutôt, y enseigne-t-on la vérité, c'est-à-dire la même doctrine que les apôtres enseignaient. Deuxièmement, la communion fraternelle. Est-ce que les frères et sœurs dans votre Église partagent les choses de Dieu dans l'amour et la joie, avec simplicité de cœur? Troisièmement, la fraction du pain. Prendre le repas du Seigneur, c'est plus qu'un rituel. C'est être en communion intime avec le Seigneur Jésus-Christ, avec ses souffrances et son œuvre. Quatrièmement, la prière. Je crains que les églises contemporaines manifestent très peu cette caractéristique. La vie de prière de votre église reflète sa santé spirituelle. Laisse-moi te poser cette question. As-tu une vie de prière? Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ce sont les apôtres qui faisaient les miracles et les prodiges. Versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église ne fut jamais aussi forte spirituellement qu'à ses débuts. Les premiers chrétiens mettaient tout en commun. Cela ne fonctionnerait pas aujourd'hui, car nos églises contiennent trop de chrétiens individualistes. Notez que c'est le Seigneur qui ajoutait les sauvés à l'Église. Le salut des âmes et la croissance spirituelle sont l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Lorsque nous servons, soit par la prédication, l'enseignement, l'exhortation, nous ne sommes que des canaux de la grâce de Dieu. La puissance restauratrice vient de Dieu. Tout le mérite va à Dieu et non à l'instrument. Lorsqu'un ébéniste fabrique un beau meuble, nous donnons le crédit à l'homme et non au marteau. Dieu est l'ébéniste. Nous ne sommes qu'un outil. Chers amis, que nous puissions être un outil docile et malléable entre les mains du Dieu créateur et sauveur. Oui, qu'il puisse venir accomplir parfaitement sa volonté à travers nous, du moins si nous avons reçu son Esprit Saint. Chers amis, prochaine émission, Actes chapitre 3, versets 1 à 26.
Oh, merci beaucoup, Régent. Je suis tellement heureuse de la réponse claire que tu nous as donnée concernant qui était responsable de la crucifixion, de la mort de Jésus. Sans aucun doute, on a vu que chaque être humain en est responsable. Et je pourrais dire, moi, la première. Je me sens comme l'apôtre Paul qui a dit dans sa première épître à Timothée, au premier chapitre, au verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mes amis, nous sommes tous responsables de la mort de Jésus sur la croix. L'apôtre Paul nous le confirme dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, lorsqu'il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce sont mes péchés qui ont cloué Jésus sur la croix. Ce sont vos péchés. Avez-vous entendu quand Régent a cité les paroles prononcées par Jésus dans l'évangile de Jean? J'aimerais les répéter si vous le voulez. Il a dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Mon ami, vois-tu l'amour du Seigneur pour toi dans cette déclaration de Jésus? Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il n'avait pas besoin de mourir sur une croix pour lui-même, puisqu'il est le seul à être venu sur cette terre sans jamais pécher. Il a donné sa vie volontairement pour toi, pour moi. Quel amour! Je raconte souvent aux gens, quand je donne mon témoignage, que c'est ma recherche pour le grand amour qui m'a amené à trouver cet amour parfait que Dieu seul peut donner. Au cours de mon cheminement, je suis tombée en amour à quelques reprises et j'étais toujours déçue des hommes que j'aimais, puisqu'ils étaient incapables de m'aimer parfaitement. Mais un jour, j'ai réalisé que moi aussi, j'aimais très imparfaitement et même très égoïstement. Mais quel coup de foudre quand j'ai découvert et même reçu l'amour de Dieu! Dieu est parfait en toutes choses, parfait en puissance, parfait en justice, parfait en intelligence et parfait en amour. Et moi, j'étais indigne de cet amour. Je méritais le châtiment éternel à cause de mes péchés, à cause de ma désobéissance envers ses commandements. D'ailleurs, je regarde les commandements de Dieu et je dois avouer qu'à ma honte, je les ai tous transgressés, au moins dans mon cœur. Et Dieu qui connaît tout, voyait ma souillure, mon indignité, mon incapacité de me purifier moi-même. Et il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, qui est venu sur la terre dans un corps semblable au mien, semblable au tien. Il a souffert de la part des pécheurs comme toi et moi. Et ensuite, il s'est laissé clouer sur une croix par sa propre créature, comme s'il était lui-même coupable. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui veut en ce moment ôter ton péché. Demande-lui de le faire, maintenant.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison.
Oui.
De nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain!
Oui!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.